le terme de poésie est arrivé. Et lorsque j'ai lu le programme de ces trois journées et que j'ai vu apparaître la poésie, j'ai dit, tiens, est-ce que ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose, la poésie, c'est immatériel. Et comme vous le savez, peut-être, le capital immatériel, aussi bien des personnes que des structures, que des marques, que de n'importe quoi, est quelque chose qui devient de plus en plus important, voire primordial dans l'économie actuelle. Il y a même un observatoire de l'immatériel. Il y a eu une étude faite par Publicis sur l'économie de l'immatériel qui a donné naissance d'ailleurs à Bercy à une cellule de maintenant une trentaine ou une quarantaine de personnes qui est l'agence pour le patrimoine immatériel de l'État qui par exemple a un stand au Festival de Cannes. Pourquoi ? Eh bien parce que des prisons, par exemple, elles sont surpeuplées, comme tout le monde le sait, et pourtant, il y a une manière de rentabiliser les prisons auxquelles on n'avait pas pensé, qui est tout simplement de louer pour quelques journées une partie de la santé, de la prison de la santé, pour les films policiers, tout simplement. Et ça fait partie du patrimoine immatériel de l'État, et ça rapporte des sous, et c'est pour ça qu'ils sont au Festival de Cannes. Voilà, donc la poésie, jusqu'à présent, on se disait la poésie et l'économie, ça ne peut pas marcher ensemble. Enfin, du moins, quand on disait de quelqu'un qu'il est poète, cela signifiait, c'est donc pas quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui pense à la sécurité sociale et qui pense aux enfants. Bref, c'est un irresponsable. Hein, généralement, c'est ce qu'on disait. Alors, évidemment, Catherine Baudry, qui se présente comme poète d'entreprise, que fait Catherine Baudry ?
Bonjour. Bonjour. Oui, c'est bon, c'est bon ? Ah, d'accord. Bonjour, tout d'abord, je remercie Jackie et l'Espace Manin France de m'avoir invité et de leur magnifique initiative de transversalité qui m'a beaucoup touchée. Donc, comme c'est écrit, je suis poète et également poète d'entreprise. Et on me pose souvent la question de comment je suis devenue poète. Eh bien, ça s'est passé à la naissance de ma fille. À ce moment-là, j'ai ressenti un amour infini. Et cet amour s'est aussi cristallisé sous forme de mots. Et je me levais la nuit pour écrire la musique de mots qui me venait donc pratiquement toujours la nuit. Et comme je me suis aperçue que ça durait, et non pas une seule nuit. Alors je suis allée à la rencontre des milieux poétiques de ma ville, et là j'ai été publiée. Et cela a un sens, parce que dès mon plus jeune âge, dès l'école primaire, j'ai beaucoup lu. Donc j'ai engrangé un stock de mots importants, et puis ces mots se sont en quelque sorte réenchantés au moment de la naissance de ma fille. Et c'est une sorte de don qui m'est un petit peu tombé du ciel. Parce que de formation, en fait, je suis expert comptable et économiste. Donc, c'était un petit peu étrange de se retrouver poète comme ça à 35 ans. Et bien qu'au cours de mes missions d'expertise comptable, je m'étais vite rendu compte que ce n'était pas ma vocation. Et après, je suis partie en Allemagne faire ce qui me plaisait, c'est-à-dire apprendre une langue étrangère. Et de retour en France, j'ai choisi d'enseigner le français aux étrangers, de transmettre l'amour de ma langue maternelle et de faire une formation à la Sorbonne de professeur en français langue étrangère. Et après, j'ai travaillé à la Chambre de commerce de Paris pendant plusieurs années avec des étudiants d'écoles de commerce américains et danois, et cela m'a beaucoup plu. Donc j'étais bien déjà dans les mots et l'amour des mots et l'amour de la langue. Et ensuite, donc avec la poésie, ça a continué. Et en 2008, quand je suis retournée sur Paris, j'ai eu l'occasion d'animer des ateliers poétiques dans une grande école de commerce, autour de pédagogie par projet. Justement, ça résonne beaucoup avec tout ce qui a été dit avant, parce qu'effectivement, ces ateliers poétiques étaient dans la pédagogie par projet. Et c'était des chefs d'entreprise qui étaient invités. Et pour développer leur part de marché et trouver de nouvelles stratégies, ils faisaient appel aux étudiants et à leur savoir-faire. et entre autres des ateliers poétiques avaient été requis pour faire émerger de nouvelles stratégies, de même qu'il y avait de la recherche avancée sur Internet et d'autres techniques dans le service d'intelligence économique de cette école. Alors la poésie, ça détend, et dans cette détente, de nouvelles stratégies peuvent émerger. Et j'utilise beaucoup l'art de la guerre de Sun Tzu, qui dit être victorieux sans combattre, le maximum d'efficacité pour un minimum d'effort. Alors, l'art de la guerre, je ne sais pas si tout le monde connaît, donc c'est un ouvrage stratégique du 5e siècle avant Jésus-Christ, un ouvrage chinois, un ouvrage dans un style non discursif et non analytique, pas du tout comme les ouvrages stratégiques occidentaux, comme Machiavel et Clausewitz, où ces ouvrages stratégiques européens mettent en avant les injonctions, c'est-à-dire faites ceci, donne des ordres, il faut, vous devez dans telle situation, quand l'ennemi fait ceci, etc., alors vous devez... Alors c'est pas du tout ça. Donc quand on est en stratégie chinoise, on est dans des espaces où c'est le milieu qui prévaut. Le milieu, le terrain, la permanence, l'aptitude au changement, le fait d'être capable de s'adapter. Et donc l'art de la guerre de Sun Tzu est truffé d'expressions qui sont ouvertes, comme l'eau ne remplit que les creux, où l'on ne sait pas tellement quoi faire avec des phrases comme ça, et notamment les entreprises qui ont sous le coup de l'art de la guerre, que vais-je bien pouvoir faire de cela concrètement dans le cadre de mes ventes de produits ou de services et autres. Donc voilà pour l'art de la guerre, ce qui m'amène donc au fait que j'ai créé mon entreprise Poésie d'entreprise au même moment, toujours pour transmettre l'amour des mots et la mettre au service des personnes qui travaillent dans les organisations. Donc Poésie d'entreprise, c'est à la fois une marque, Poésie d'entreprise et une sous-marque Sun Tzu Té, et sous lesquelles se déclinent trois types d'activités. Sun Tzu Té, les ateliers poétiques des cinq sens et les blasons poétiques. Donc Sun Tzu Té, c'est des ateliers de stratégie autour de l'art de la guerre, où en intelligence collective sont traités des cas de figure qui coincent, et avec un chemin de résolution poétique autour des préceptes de l'art de la guerre, qui est à la fois un ouvrage poétique, stratégique et de sagesse, de nouvelles stratégies émergent. Et les ateliers Poésie des cinq sens font émerger les personnes comme auteurs, et les blasons poétiques sont une manière de personnaliser une organisation, une structure ou un dirigeant. Là, c'est un poème qui est adressé et qui personnalise un dirigeant d'une société qui révèle des talents, que je vais vous lire. Donc, Joël, vous êtes Simèze, la braise des ardents, le ferment des cèpes, hymne des prés, l'horizon des syllabes, la vis émondée, ta cadence sylphide, trou l'archipel des songes. Ça nous amènera tout à l'heure à voir quel type de poésie j'écris. Et poésie d'entreprise, c'est d'abord créer du lien entre les mots, puisqu'évidemment c'est ça la poésie, créer du lien entre les mots et entre les êtres, et créer du lien entre les mots et entre les êtres, et tout ça dans la beauté. Et c'est aussi créer les conditions, le contexte et les lieux pour que du nouveau et de l'inattendu puisse advenir. Parce que c'est exactement ce qui se passe dans le cadre des ateliers que j'anime. C'est-à-dire que des conditions sont créées avec un cadre, justement, parce que c'est seulement avec un cadre, comme disait ce monsieur dirigeant d'entreprise, et je crois que plusieurs dirigeants d'entreprise l'ont dit, la nécessité d'un cadre. Donc dans ce cadre-là, de l'inattendu peut survenir grâce effectivement à l'utilisation d'un certain type de langage, un langage poétique qui est par essence un langage qui ouvre. Et il est aussi évidemment question d'expérimenter la beauté. Et au cours de ces expérimentations que j'ai faites et de ces opportunités de travailler dans cette grande école de commerce, j'ai écrit un livre pour synthétiser tout ce travail sur la poésie et de transfert des compétences de la poésie au service des gens qui travaillent dans les organisations, avec d'une part le fait de désenclaver la stratégie, de voir comment transférer les compétences poétiques dans les organisations, de distinguer la poésie du processus poétique. La poésie peut déboucher sur l'écriture d'un poème, comme vous avez vu, ou de tout autre poème, et également sur le processus poétique, ce qui renvoie tout simplement à notre capacité à faire des analogies et des correspondances, parce que nous sommes des êtres de langage et que nous sommes tous aptes donc à créer des liens entre les mots et à créer des correspondances, et donc à écrire évidemment des poèmes et des textes poétiques, puisque c'est inhérent à notre condition humaine, en fait. Et c'est ça ce que j'ai appelé le processus poétique, où j'ai répertorié les figures de style de l'art de la guerre et mis en place des ateliers qui s'adressent à des gens qui n'ont jamais fait de poésie, bien sûr, et qui simplement vont faire des associations de manière collective avec des stimuli qui sont des phrases, justement, qui posent question, des phrases qui laissent planer un mystère, parce que c'est justement à ce moment-là que des associations peuvent se faire. Dans un langage fermé, qu'est-ce qu'on peut créer quand déjà tout est dit? Lorsque tout est défini, il ne peut pas y avoir de création. Pour qu'il y ait une créativité, il faut qu'il y ait quelque chose d'ouvert dans la langue. Donc justement, je vais vous lire quelques préceptes de Sun Tzu afin que cela ne reste pas abstrait, justement.
Le blason poétique, c'est quoi ?
Blason poétique, c'est la personnalisation et la personnification d'une personne ou d'une structure de manière poétique. Ce que je vous ai lu, le blason poétique est ici, non ? Là ? Oui. Donc, par exemple, si je prends dans Sun Tzu, une armée vertueuse est comme un poids d'une livre face à une once. Une armée vaincue est une once face à une livre. Qui sait user des moyens extraordinaires est infini comme le ciel et la terre, inépuisable comme l'eau des grands fleuves. Les soldats sont comme des billes de bois ou des pierres qui dévalent. Une armée doit être preste comme avant, majestueuse comme le forêt. La forme d'une armée est identique à l'eau, impalpable et immatérielle. L'expert ne laisse pas ses traces. Mystérieuse comme une divinité, il est inaudible.
C'est du Sun Tzu ou du Catherine?
Non, c'est du Sun Tzu. Je suis dans ma classification des figures de style de Sun Tzu. Ah oui, ça c'est un style qui est très proche de Lao Tzu, la voie du Tao, ceux qui connaissent un peu le Tao et ses ouvrages taoïstes de philosophie chinoise. Voilà, c'est dans ce même style-là. C'est pourquoi je dis que c'est un ouvrage à la fois poétique, stratégique et de sagesse. Et on n'a aucun ouvrage comme ça en Occident qui mêle ces trois formes. J'en ai une autre, soumettre l'ennemi sans croiser le fer, voilà le fin du fin. On ne prouve pas sa force en soulevant une plume de canard. En plus, c'est drôle. Voilà, donc j'ai écrit tout un livre sur l'application de la poésie et le transfert des compétences poétiques, parce que je pense que c'est une réelle opportunité pour les organisations, particulièrement en matière d'innovation, puisque le fonctionnement est le même lorsqu'on innove, le fonctionnement du cerveau est le même. Il s'agit de relier entre elles des idées que l'on n'aurait jamais mises ensemble. Donc c'est toujours créer du nouveau. Et en fait, moi, je crée le terrain, dans une pensée complètement chinoise, le terrain pour que le nouveau advienne, pour que le nouveau apparaisse. Alors, un mot sur ma poésie. Voilà, j'ai écrit cette poésie qui m'est venue. C'est une poésie essentiellement musicale. Il y a des mots savants dedans parce que j'ai un capital et un stock de mots qui est très important. Alors, ce n'est pas du tout choisi pour la difficulté peut-être du mot, pas du tout, c'est pour sa valeur sonore. Donc, comme j'ai plein de mots, c'est j'ai plein de notes, comme des notes de musique. Ayant beaucoup de notes de musique, alors je peux composer une musique de mots. Et ce sont des textes qui s'adressent au corps, au ressenti et à l'émotion, et pas du tout au mental. Alors nous, nous avons une habitude des textes qui est, on écrit des textes, on les lit, etc., pour qu'ils soient compris. Non seulement compris, intellectualisés, remâchés. Et on a perdu totalement l'habitude du texte qui est écrit pour être ressenti, pour se faire plaisir et pour se donner du plaisir. Voilà. Et la poésie a été écrite beaucoup, je pense, énormément, pour partager de l'émotion, ressentir, avoir des images, bien sûr. La poésie, c'est pour créer des images intérieures. Et ces images intérieures, elles sont infinies. Elles sont plus intéressantes qu'une image qu'un artiste va nous plaquer de sa vision des choses. C'est nous qui la ressentons à l'intérieur et qui la voyons. Donc ça, c'est pour le fait que cette poésie est écrite en vers libre. Et par conséquent, moi, quand j'anime des ateliers poétiques, je n'ai pas de pratique de la rime ou des alexandrins, etc. Donc j'ai une habitude de la poésie en vers libre. Là, il y a un autre poème qui a été écrit pour un chef de la haute gastronomie sur des coquilles Saint-Jacques, parce que je trouve qu'il y a une relation intense entre les mets et les mots, des questions de saveur de mots, de saveur de mets. Et la haute gastronomie, l'aspect esthétique, le fait que ça sollicite tous les sens, m'inspire beaucoup. Donc ce plat m'a beaucoup inspirée et j'ai écrit ce poème. Le poème est un mot oiseau, tendu est le roseau, le miel des coteaux, advienne la ramure du vent pourpre. Et pour continuer sur la poésie, sur qu'est-ce que la poésie, justement, comme on me demande assez souvent. Donc la poésie, c'est une association inhabituelle de mots qu'on ne mettrait pas ensemble, qui produisent un effet et un rayonnement. Et le mot rayonnement est très important, je crois. Alors, comment se fait-il que la poésie soit aujourd'hui considérée comme réservée à une élite, un petit cénacle, qu'elle soit quasiment invisible dans l'espace public ? Et que personne n'ose presque s'approcher de cet objet bizarre. Eh bien, je pense que c'est très lié à l'enseignement que l'on a eu à l'école et à tout ce métalangage très technique sur la poésie pour décrire l'objet, le poème, avec des contre-rejets, des rejets, des enjambements, des allitérations, enfin bref, tout le langage pour décrire le poème, plus le langage pour décrire tous les types de poèmes, les quatrains, les sonnets, les églogues, etc. Donc tous les efforts que nous avons dû fournir pour comprendre, se souvenir de tout le descriptif sur la poésie nous a complètement éloignés de la vocation première de la poésie qui est de ressentir et d'avoir du plaisir à lire ces textes. Donc je pense que la manière de l'enseigner a beaucoup joué sur le fait qu'on s'éloigne de la poésie. Et à côté de l'aspect structure de la poésie, le fait qu'elle soit venue très tardivement à moi, la poésie, je me suis beaucoup interrogée sur le processus poétique. Voilà, comme je le disais dans le livre que j'ai écrit. Et sur le fait que nous étions tous des êtres de langage, que je disais tout à l'heure, et donc tous capables de faire des analogies, des correspondances et d'écrire de la poésie, ce que j'ai remarqué au cours des ateliers, évidemment, que j'animais. C'est très étonnant de voir que tout un tas de gens qui participent à ces ateliers n'ont jamais... sont des petits lecteurs, généralement, n'aiment pas trop l'écrit, et lorsqu'ils sont stimulés sur un sujet qui les intéresse, eh bien, ils peuvent écrire. Le fait que aussi on oublie que dans le langage courant, on utilise tout le temps des figures de style, en fait, et qu'on dit on va boire un verre, on se fait une toile, voilà, les bras m'en tombent, etc. Toutes ces expressions idiomatiques sont des figures de style que l'on utilise en poésie. Simplement, quand on va boire un verre, on n'est pas en train de se dire « je fais une figure de style et je suis un poète ». C'est fort dommage d'ailleurs, parce que ça désacraliserait la poésie. Donc en fait, on fait de la poésie tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout difficile, c'est très facile de participer à un atelier poétique. Et ça vient tout à fait naturellement. C'est le fait de s'autoriser, voilà, de s'autoriser à associer librement ce qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire. Ouais. Donc la poésie soulève la question du sens. Ça, c'est le titre du livre. Oui, la poésie soulève la question du sens. Et la plupart des entreprises, comme le disait l'un des chefs d'entreprise qui était là tout à l'heure, sont englués dans les reportings, dans les plans de financement, de prévision, tout un tas d'outils, des outils qui sont là pour prévoir, pour se sécuriser, pour se sécuriser dans un univers et dans un futur qui est en fait toujours changeant. Donc on met en place des outils fixes, alors que le terrain est changeant en permanence, donc ça peut de toute façon pas coller. Et à force d'être le nez dans ce type de document, la plupart des entreprises en oublient quelles étaient leurs visions premières et quel était le sens de l'entreprise qu'ils ont montée. Or, toute entreprise, quelle que soit la nature des produits ou des services qu'elle vend, obligatoirement a dû faire preuve d'imagination. Imagination, créativité, enthousiasme sont le fondement de toute entreprise. Donc en fait, avec les ateliers, avec la poésie et avec Zunsouté, c'est un moyen de se reconnecter avec cette énergie de la fondation de cette entreprise. Alors par exemple, quand je prends l'industrie du disque et l'industrie de la photographie, elles se sont accrochées à leurs solutions économiques et financières au moment de la révolution Internet, à un moment où elles auraient dû faire preuve d'innovation et s'adapter. Et en fait, elles ont perdu le sens premier et leur vocation première, qui était d'apporter la musique ou la photographie à un coût relativement accessible et au plus grand nombre. Donc ça, c'est la vocation de l'entreprise. Et lorsque une entreprise oublie sa vocation première et qu'elle part dans les solutions économiques et financières et les solutions techniques et qu'elle oublie d'innover quand la vie demande que l'on innove, tout simplement, alors à ce moment-là, effectivement, elle est en danger. Parce que la source, la vitalité, c'est la vocation de l'entreprise, hein, c'est ce pourquoi elle a eu envie de développer telle ou telle activité. Donc la vision, le sens premier, la vocation, le retour aux sources, ça c'est à travers les mots et le sens porté par l'entreprise que cela se traduit.
Ceci dit, le maître mot pour une entreprise, c'est quand même de satisfaire un marché. Donc, et d'utiliser des technologies permettant de satisfaire au mieux ce marché.
Oui, donc, tout à fait.
Je voudrais rebondir d'ailleurs sur ça, sur l'exposé de la personne qui a parlé de musique, pour dire qu'un de mes amis, qui s'appelle Nicolas Rousseau, de Médiation Consulting, fait toute une conférence à des chefs d'entreprise sur la leçon marketing que nous donnent les Rolling Stones, qui ont rebondi à chaque fois, qui se sont plantés plusieurs fois, mais qui, dès le lendemain, changeaient de modèle économique, etc. C'est très, très bien expliqué, ce qui explique maintenant leur succès, qui ne s'est jamais démenti, mais avec chaque fois, on disait, les Rolling Stones, c'est mort.
Mais vous avez dit, ils ont rebondi.
Et
vous avez
rebondi.
Dit ce mot magique, ils ont rebondi. Voilà. Mais c'est ce que beaucoup d'entreprises auraient effectivement à faire, de rebondir. Maintenant, eux, ce sont des artistes et ils ont su rebondir, saisir des opportunités, que sais-je, je ne sais pas du tout comment ils ont fait. Hein. Mais en tout cas, ils ont fait preuve d'innovation et de créativité, ça c'est sûr. Enfin, tandis que si on s'accroche à des solutions techniques et qu'on garde le vinyle ou qu'on garde le CD, alors que c'est mort le CD, donc là, il y a autre chose à trouver, absolument. Même la manière dont c'est fait aujourd'hui sur Internet, les fichiers, le cloisonnement des fichiers, le fait qu'on ne puisse pas partager tous les fichiers musicaux et tout ça, ce n'est pas une bonne idée du tout. Plus les gens partageront, plus ça va donner un élan, plus c'est quelque chose de positif. Donc ça aussi, on s'agrippe à vouloir gagner de l'argent tout le temps ou à des solutions techniques, et ce n'est pas ça la solution. Il faut voir ce qu'il y a. Le fond, il faut toujours regarder au fond et quel est le désir et le moteur. C'est ça le plus important. Et c'est aussi important pour un être humain, comme l'a dit un dirigeant, de motiver les jeunes. C'était tout à fait juste, mais c'est valable que ce soit au niveau d'une personne et ou au niveau d'une structure, c'est-à-dire d'un système. Et je vais vous lire le retour. Ce que m'a donné comme retour... le dirigeant à qui j'ai écrit le blason poétique, voilà. Cela m'a d'abord surpris. J'ai eu l'impression de comprendre quand même les mots que je ne connaissais pas. La musicalité des mots est tout à fait nouvelle pour moi, inattendue, pleine de vibrations. Cela donne une dimension plus grande de ce que j'avais pu imaginer. Je ne peux pas échapper à ce que je fais. Je suis à ma place et j'apporte quelque chose au monde. C'est une vraie reconnaissance profonde. Le poème caractérise le sens de ce que je suis en train d'accomplir avec un souffle que je n'imaginais pas. La vocation de mon entreprise est inscrite de manière poétique. Avec des mots ordinaires, cela eût été fade. Donc ça, c'est un retour du dirigeant. Et je souhaitais aussi faire une... Ça, c'est un poème, un haïku japonais qui est relativement proche... peut-être de ce que j'écris, tout en correspondant à des règles japonaises. Et j'aimerais terminer sur la beauté, par rapport à des réflexions que l'on pourrait faire sur le... Qu'est-ce que ça rapporte ? On en a parlé aussi tout à l'heure. Qu'est-ce que ça rapporte, la beauté ? Voilà. À quoi ça sert ? Quel est le retour sur investissement et surtout l'augmentation du chiffre d'affaires quand on est dans la beauté ? Alors, bon, évidemment, je me suis posé la question, j'ai regardé autour de moi, et quand je regarde tout ce qui m'entoure, les humains, les animaux, la nature, tout, toute la vie autour de moi, tout est beau. Tout est beau, et cette beauté ne sert pas spécifiquement à un animal pour manger mieux, pour se reproduire mieux. Non, il y a une part... importante de beauté qui n'est utile à rien de fonctionnel, de physiologique. Donc j'en déduis qu'effectivement la beauté n'est ni utile ni indispensable, qu'elle est simplement essentielle, et que la beauté fait partie de la vie et qu'elle est essentielle à la vie. Sinon, pourquoi rechercherions-nous un compagnon qui est beau, une femme qui est belle, une belle maison, un bel objet, une belle cuisine ? C'est bien parce que nous recherchons tout le temps le beau. Tout le temps, en fait. C'est une quête... Et quels sont les objets qui valent le plus cher ? Les œuvres d'art, de la peinture sur un tableau, une sculpture, c'est ce qui vaut le plus cher. Les peintures de Rembrandt, de Vermeer ou de Van Gogh atteignent des sommes, des millions et des millions d'euros. Rien ne vaut plus cher que ça. Donc rien n'a plus de valeur que le beau. À la réponse, quel est le retour sur investissement ? Rien n'a plus de valeur que le beau. Rien. Donc c'est certainement que plus on va vers le beau, plus on va vers l'humain, et plus on va vers ce qui nous caractérise. D'ailleurs, comment se trouvent les gens ? Comment vivent les gens qui vivent dans des habitats laids ? Justement, on a parlé de biophilie avec André et des merveilleux retours sur investissement, car que serait la vie sans retour sur investissement, n'est-ce pas ? Essayez d'imaginer. Donc, 12% de plus avec biophilie. Voilà, donc c'est-à-dire un aménagement des lieux en fonction de ce que l'humain désire, d'avoir une perspective des plantes, de la végétation, de l'espace, de la lumière.
C'est là où c'est là où le beau ou le lien avec la nature excite les financiers. Les économistes se réveillent, les financiers, quand on leur dit « Ah, et en plus, c'est rentable, avec des études extrêmement sérieuses qui ont été faites. Ouais. » Alors là, ils commencent à se réveiller et à sortir. Voilà, voilà. Parce que, en fait, ils sont contents de revenir dans leur sphère financière, dans un monde que eux comprennent. Puisque le beau, la poésie, tout ça, bon, oui, mais bon.
Oui, mais finalement, on y revient.
Nous allons terminer dans quelques instants.
Oui, oui,
est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact que vous avez eu? Parce que ce qui m'a frappé dans la conversation qu'on a eue hier soir à ce sujet, ouais, c'était le fait qu'avant, vous n'étiez pas du tout poète, vous ne pensiez pas être poète.
Et ah c'est, non, pas du tout.
Le déclenchement était la naissance de votre fille, vous l'avez bien expliqué tout à l'heure. Donc, en continuant à présenter les produits que vous avez, si vous pouvez nous parler des clients que vous avez ou des prospects, ça serait intéressant.
Donc, les clients que j'ai, ce sont des réseaux féminins, comme Connected Women, Women in Action et PWN, et d'autres réseaux qui sont moins connus que ceux-là, et des associations comme l'association du Parti des Verts de la mairie du 10e ou des associations sur, qui regroupent des entreprises de travailleurs indépendants sur la Normandie. Et également un public de travailleurs indépendants qui vient pour soumettre des cas de figure, des cas de figure qui coincent dans leur vie et qui font appel aux ateliers Sun Tzu-Té pour qu'autre chose puisse émerger. Et maintenant, moi, j'aimerais travailler dans des structures un peu plus importantes, ouais, pour transférer, en fait, cet outil. Parce que je pense que c'est un outil très, très utile en interne et que ce serait bien que des PME puissent se l'approprier.
Vous qui avez travaillé longtemps en chambre de commerce, oui, et avec joie, vous l'avez dit.
Ah oui, c'était très intéressant, vraiment. La chambre
donc,
de commerce,
quel lien, comment faites-vous le pont? D'abord, est-ce que vous avez parlé à vos collègues ou aux anciens collègues de ce que vous faites et quel a été, si vous en avez parlé, quel a été l'accueil? Vous n'en avez pas
j'ai
parlé.
Pas, j'ai pas revu d'anciens collègues de la chambre de commerce, honnêtement.
Mais est-ce que les chambres de commerce peuvent être vos préconisateurs?
Ah, les chambres de commerce, oui, je pense. Tout à fait, oui.
D'accord. Mais vous n'avez pas essayé encore?
Non, j'ai pas encore essayé parce que c'est beaucoup de travail déjà de mettre ça sur pied seul. Voilà, c'est beaucoup de travail. D'animer un réseau, d'animer très régulièrement des ateliers dans des grands hôtels ou chez moi pour continuer à pratiquer, de prospecter au niveau des entreprises, de chercher des éditeurs, enfin bref, c'est beaucoup de travail.
Et vous gagnez votre vie avec la poésie?
Ah, moi je gagne, oui, je gagne très très bien ma vie avec la poésie.
Ouais. En plus ça paye.
Et en plus ça paye.
C'est ça qu'il faut dire, ça paye la poésie.
Ça paye la poésie, oui.
Merci beaucoup. Vous avez terminé?
Avec plaisir. Tout à fait, oui. Je vous remercie.
Vous avez terminé?
Oui.
D'accord, et bien écoutez, on vous applaudit, on vous félicite d'avoir osé passer... le pas, enfin de franchir le pas grâce à votre fille d'ailleurs. Et est-ce que vous y a d'autres personnes comme vous, puisque vous parlez de réseau?
Oui, peut-être que j'aurais pu ajouter qu'il y avait un poète au Parlement au Canada, numéro 1. Numéro 2, il y a un poète d'entreprise, Claude Péloquin, au Canada également depuis 13 ans. Je l'ai découvert il y a 2-3 mois. Lui, ça fait 13 ans qu'il fait ça et il fait des blasons. Lui, il fait des capteurs d'âme, il appelle ça des capteurs d'âme. Et c'est exactement ce que je fais, les blasons poétiques. Donc lui, ça fait 13 ans qu'il fait ça. Et voilà. À côté de ça, dans mon bouquin, j'ai mis tout ce qui se faisait en termes d'innovation autour des To Get Art, des barcamps, etc., d'autres innovations en matière de créativité. Mais pour la poésie, non, je sais pas. Mais je pense que ça va certainement venir. Ah si, il y a le Boston Consulting Group. Le Boston Consulting Group qui a justement répertorié toutes les compétences qui sont liées à l'activité poétique. Donc ça vient aussi un petit peu des États-Unis avec la Harvard Business Review. Voilà. Dans le monde anglo-saxon, on se bouge plus autour de la poésie. On est en train de sentir que là, il y a quelque chose qui pourrait vraiment stimuler. Ouais.
Merci. Des questions? Une fois, deux fois?
Une suggestion,
trois fois, il n'y en a pas.
Une suggestion, c'est n'hésitez pas à nous envoyer des propositions de contact sur ce lien culture-entreprise, et y compris dans l'autre sens. Je pense à un artiste qui s'appelle Yann Thomas, qui lui a acheté, en tant qu'artiste, une centrale d'électricité. Ça serait intéressant de savoir ce qu'il en a fait. Donc voilà, si vous avez des passerelles de ce type, on est preneur pour l'année prochaine.
Bien, pour terminer cette journée avant à 19h30, donc la soirée découverte par Mlle Persil, nous allons demander à Florent Blain et à Julien Michaud de venir me rejoindre. Voilà, pour nous parler à la fois de photographie, d'instants culturels, d'entreprises ouvertes, enfin, et d'art finalement, je crois. Mais je vous laisse. Il faudrait peut-être enlever l'écran. Quoique, bon, vous savez faire, bon, tout va bien. Voilà, alors donc, effectivement, l'entreprise ouverte, l'intrant culturel avec Florent Blain, historien de l'art. Et je lis donc la mise en œuvre d'action culturelle au sein de l'entreprise CDA Développement. Et quant à Julien Michaud, Moju Photos, qui est un photographe auteur, membre de consortium coopérative, donc ils viennent présenter le travail photographique réalisé par CDA Développement Ardatech. C'est bien ça ?
C'est bien ça.
Eh ben voilà.
Alors, est-ce que je suis... Oui, ça marche. Alors, voilà, c'est pas l'instant culturel, c'est l'intrant culturel. Vous auriez dû techniquement me reprendre, puisque c'est pas un mot adapté à l'industrie, c'est un mot adapté à l'agriculture. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce mot d'intrant culturel? L'intrant sur un champ, c'est ce qu'on met, c'est ce qu'on ajoute pour enrichir le sol et donc faire repartir un petit peu les cultures. Parce que quand on est dans la culture intensive, les sols s'appauvrissent. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'on est obligé de récupérer la terre en y ajoutant des intrants. Alors je pense que la problématique peut se poser également pour l'entreprise, même si ce n'est pas le cas spécifique de CDA, mais la chose peut se présenter pour l'entreprise. On se pose souvent la question de qu'est-ce que ça rapporte la culture, qu'est-ce que ça rapporte la poésie, qu'est-ce que ça rapporte, etc. On pourrait poser la question dans le sens inverse, qu'est-ce que ça fait si on l'enlève ? Eh bien, si on l'enlève... on perd d'abord en productivité, mais surtout on perd le sens de ce qu'on fait. Et puis on finit comme un paysan en agriculture intensive, on se suicide. Voilà. Donc pour éviter d'en arriver là, je pense qu'il faut mettre du sens dans ce qu'on fait. Et le sens, c'est en se penchant sur la culture qu'on le garde. Alors comment ça s'est fait dans le cas de CDA Développement que dirige Jean-Marc Neveu ? Eh bien, je ne sais pas exactement. C'est son idée à lui. Il m'a demandé d'intervenir dans le cadre d'un colloque du CJD sur le thème art et entreprise. Donc ce que j'ai fait, bon, je savais qu'implicitement dans le thème de l'intervention, il fallait que je rapproche le monde de l'art et de l'entreprise et que j'envoie des signaux à l'auditoire pour leur dire qu'effectivement, d'une part, les artistes étaient des entrepreneurs et puis étaient parfois même de très très bons entrepreneurs, qu'il n'y avait pas de différence à faire là-dessus, et puis surtout qu'il y avait un lien entre l'industrie et le domaine artistique, notamment au 19e et dans le début du 20e, où ces domaines-là ont été très prospères ensemble. Donc, suite à la... À cette petite conférence miniature, Jean-Marc Neveu m'a demandé « Oui, mais dans mon entreprise, qu'est-ce qu'on fait ?» Bon, à ce moment-là, j'en savais rien du tout. Donc, on a visité l'entreprise de Jean-Marc Neveu. Vous aurez peut-être le loisir de faire la visite de l'entreprise de Jean-Marc demain après-midi. Jean-Marc, c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire visiter son entreprise. Il fait énormément visiter son entreprise. Donc, à la question « Qu'est-ce qu'on fait ?» j'ai dit « On va faire une visite de ton entreprise, Jean-Marc. » Donc, sauf que cette fois-ci, c'est moi, historien de l'art, qui fais visiter l'entreprise aux employés et notamment à toi. Alors, en présentant son activité, vous avez eu droit à la comparaison obligatoire. À chaque fois que Jean-Marc présente son entreprise ou son activité, il dit « Nous, on fait des gaufres, on a un moule et on fait... et on fait c'est avec du plastique, mais on met du plastique dans un moule et on fait comme un moule à gaufres. » Et au bout de la deuxième ou troisième visite, il me demande, comme ça, au détour d'une phrase, je ne sais pas, c'est peut-être un peu idiot de comparer ça à un moule à gaufre. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tu as dit ça. Alors, du coup, la position, c'est de se dire, moi, je ne sais pas si c'est idiot ou si ce n'est pas idiot. Je n'y connais rien en plastique, j'y connais rien en moule, j'y connais rien en industrie d'une manière générale. Donc, je cherche une occurrence culturelle de savoir si Eh ben, y a un lien entre le fait de faire des objets en plastique et les moules à gaufres, et si c'est une comparaison, si elle est idiote ou pas. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé une occurrence. Donc c'était Bill Bowerman dans les années 60 qui avait mis du plastique dans le moule à gaufres de sa femme parce qu'il voulait faire des semelles les plus légères possibles. Voilà, 4 ans après, il a fondé une entreprise avec un ami commercial qui s'appelait Philip Knight, qui a fondé l'entreprise Nike pour vendre des chaussures de sport et d'athlétisme dans le monde entier, pour mourir à 88 ans, il y a peu de temps, 30 fois milliardaire, il me semble, quelque chose comme ça. Donc ça m'a permis de répondre à la question de Jean-Marc. Non, ta comparaison n'est pas idiote. Culturellement, si on recherche dans la culture industrielle de ton domaine, on peut répondre à cette question, à cette interrogation que tu as à ce moment-là de est-ce que c'est idiot les questions que je me pose ou les comparaisons que je fais. De la même façon, on peut interroger les objets de son entreprise, et c'est ce qu'on a fait pendant la petite visite. On peut interroger les chaises, on peut interroger les armoires, pourquoi on se sert des armoires, pourquoi on sert des lampes de bureau et des stylos, etc., etc. On se penche là-dessus. Il y a une raison culturelle à tout ça, il y a même une excellente raison culturelle de tout ça, en règle générale. Et quand on est concepteur et producteur, fabricant d'objets, c'est une bonne chose de prendre un peu de temps pour se poser ces questions-là, remettre en perspective son activité et savoir pourquoi on l'a fait, pourquoi on se lève le matin. Je pense que c'est quelque chose d'important. Alors, quand on a eu fait ce petit travail de rapprochement entre le monde culturel et le monde de l'entreprise, s'est posé la question de savoir comment artistiquement on interviendrait dans l'entreprise de Jean-Marc. Alors j'ai fait des entretiens avec chacun des salariés, ce qui a donné lieu ensuite à une planche scénarisée. Il y a un dessinateur qui est intervenu et qui a fait une planche scénarisée pour chaque salarié de l'entreprise, pour mettre un petit peu en dérision les rapports sociaux, les problématiques de l'entreprise, les goûts de chacun et leur rapport à la culture, qui était parfois très, très distant. Mais voilà, c'était une façon de s'en amuser sans dramatiser ce sujet-là. Et enfin, il y a les questions du regard qui m'a semblé, moi, importante. C'est-à-dire que le monde industriel ne se voit pas comme quelque chose d'esthétique, ne se voit pas comme quelque chose de patrimonial, et in fine ne se considère pas comme quelque chose de culturel. Alors pour changer de regard, le plus direct, la passerelle la plus logique, la plus directe, c'était de faire appel à un photographe qui, lui, avait le regard et qui, lui, pouvait esthétiser ces espaces-là, ces savoir-faire-là, ces gestes-là, ces machines-là. Donc, on s'est posé la question de savoir avec qui on allait faire ça. Et effectivement, je l'ai pas caché à Julien au départ. Le premier contact qu'on avait eu n'avait pas été satisfaisant à ce niveau-là parce que trop préoccupé peut-être de la création artistique et du rendu artistique, on le voyait pas, on l'imaginait mal se fondre dans l'entreprise, dans son contexte, son milieu, pour pouvoir créer sereinement et puis en tirer la substantifique moelle, puisque c'était un travail d'immersion et de confiance aussi, comme Julien va l'évoquer maintenant, car je lui laisse la parole.
Merci. Donc Julien, je suis photographe professionnel, c'est assez récent, c'est depuis février de cette année. Avant ça, moi j'ai été animateur socioculturel pour le public adolescent essentiellement, une dizaine d'années, et encore avant j'étais artisan peintre dans une petite entreprise artisanale. Du coup c'est une troisième aventure professionnelle. J'exerce cette activité donc au sein d'une coopérative, consortium coopérative, qui est basée à Ligugé, à côté de Poitiers. Moi, j'essaie de développer mon activité du coup avec une activité à caractère artistique autour du caractère documentariste de la photographie. J'essaie de construire une démarche qui s'attache à révéler ce qui constitue notre réalité quotidienne. Alors plutôt banal, ordinaire, Mais quand on s'y attache un peu plus, ce qui est beaucoup plus complexe et intéressante que ce qu'elle peut sembler de prime abord, et qui du coup est souvent ignoré et inexploré. Donc ouais, voilà, c'est ce qui m'intéresse moi dans ma démarche de photographe. Une petite citation, du coup, ce que j'ai entendu tout à l'heure, que c'était important de faire une citation quand on faisait une petite présentation. C'est une citation de Ingres, donc le peintre, qui dit la photographie, c'est beaucoup mieux que le dessin, mais il ne faut pas le dire. Avant de vous présenter en support sur écran le résultat du travail photographique au sein de l'entreprise, je vais juste dire deux mots sur ce qui moi m'a intéressé dans cette intervention. C'est d'être au cœur d'une réalité économique, technique et également sociale et humaine. On a parlé de l'immersion tout à l'heure, donc en effet, il y a le résultat, la photo, c'est l'outil. Dans la démarche, il y avait cette nécessaire proximité. Donc en gros, j'ai passé 3 jours dans l'entreprise à faire les prises de vue, à une proximité physique rapprochée, c'est-à-dire en étant à quelques centimètres parfois des salariés qui étaient en train d'accomplir les différentes tâches de la création de ces fameux objets en plastique. Et puis c'est également aussi l'occasion de mener un projet artistique qui est connecté au monde de l'entreprise et de l'économie, d'être dans une réalité tangible, d'être au cœur de cette réalité-là. Ce qui du coup croise aussi mes préoccupations de photographe, parce qu'à côté de ce travail, j'ai un travail plus personnel de photographie de paysage, donc avec ces mêmes préoccupations de renseigner la réalité qui nous entoure. Voilà, du coup je vais passer les photos, voilà. Donc c'est comme si on était, c'est un document qui fait à peu près 25 sur 20 centimètres. Donc là en fait c'est la double page que vous avez devant les yeux. Voilà, merci.
Merci. Bon, pour de citation, il faut s'en méfier quand même, parce que dire que la photographie c'est mieux que le dessin, mais il ne faut pas le dire, c'est évidemment une boutade, j'ai bien compris. C'est comme de dire un oiseau, c'est beaucoup mieux qu'un papillon ou qu'un poisson, mais il ne faut pas le dire. C'est-à-dire ça dépend beaucoup et de l'objet en question. Il y a tout. Alors, les citations ont toujours à la fois un grand avantage et des limites, tout comme les comparaisons. Ça peut frapper l'esprit.
Si vous voulez l'avis rapide d'un historien de l'art sur la question, je précise quand même que le sens de l'humour d'Ingres était très 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 peu développé. Donc on peut dire que c'était pour rigoler, mais c'était quand même une personnalité assez austère, faut le savoir.
Entre les mains le catalogue.
Donc, et puis je me permets de préciser en même temps que l'élaboration du catalogue s'est faite en concertation même si Julien a eu la tâche de faire toute la mise en page et toute la préparation à la fin, mais avec la participation des ouvriers, avec la participation de Jean-Marc, qui sont venus nous dire oui, tel cliché, c'est très bien, mais sur la phase d'usinage, vous avez oublié telle étape, vous avez oublié ceci, vous avez oublié cela. Et donc les salariés ont été sollicités dans la partie confection d'un catalogue artistique.
On pourrait demander d'ailleurs tout à l'heure, après la vision des photos, à Jean-Marc Leveux, quel était au départ l'objectif qu'il avait en faisant cette demande à des artistes qui nous présentent leurs œuvres, et en quoi la réalisation qu'il a eue avec ce catalogue a rempli tout ou partie de ses objectifs ou a apporté autre chose. Si Jean-Marc veut donner son avis, bien sûr.
C'est la page de fin, donc j'ai laissé finir là-dessus. Ça vous permet de prendre le temps de lire pour ceux qui le souhaitent. Et du coup, on va préciser que ce qui m'a fait plaisir, enfin, qui a été le retour très positif et constructif de ce travail, c'est à la fois donc le retour de Jean-Marc qui était très content du résultat et que ça correspondait à ses attentes. Et également le fait que les salariés de l'entreprise se retrouvaient parfaitement dans ce qui était raconté dans ce catalogue. Ce qui était du coup moi, un des objectifs, c'est-à-dire de raconter ce qu'est l'entreprise de façon exhaustive et de ne pas trahir en quelque sorte les salariés, les acteurs de cette entreprise. Donc moi, ça c'était ma plus grande satisfaction de ce travail, c'est d'avoir ce retour-là en disant ce que le catalogue raconte, c'est bien notre réalité de travail.
Merci, c'est donc la réponse à la question que je posais. Mais Jean-Marc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais ajouter ? Attention.
Moi, j'ai beaucoup d'émotions à les entendre tous les deux. Là, je suis assez bluffé par la démarche, la patience et la compréhension qu'ils ont eue de ça. Vraiment, je suis vraiment extrêmement fier de ce travail-là. Alors, bien sûr, il y a la partie visible, mais il y a la partie, ce qu'a expliqué Florent, il peut pas y avoir un résultat comme ça s'il n'y a pas une mise en perspective de pourquoi on le fait. Et de dire, bah voilà, nous sommes des fabricants d'objets et l'humanité ne s'est pas faite sans qu'on fabrique des objets. Et c'est à travers la fabrication des objets, bah, y a toute une organisation sociale, hein, voilà, et on est un petit peu les héritiers lointains de ce travail depuis l'humanité, hein, que, enfin, voilà. Alors nous, on pense aujourd'hui qu'on quitte le monde des objets, mais parce que les possibilités numériques sont importantes, mais on est aussi dans une certaine matérialité, on est des êtres encore matériels, et je crois que c'est la noblesse aussi de notre mission, notre travail, notre métier. Et c'est une manière de rendre compte de ça, que le travail a été fait comme ça. Et du coup, Florent a parfaitement compris cette mise en perspective-là. Il l'a donnée aux salariés. Et je me souviens de la première fois qu'il est intervenu, il expliquait pourquoi les bols, il y avait un fond plat, etc. Et du coup, les salariés, au départ, ils ne comprenaient pas trop pourquoi il était là, à quoi ça rapporte. Et après, ils ont compris. Ils ont compris que voilà, le sens de leur travail pouvait s'incarner dans cette représentation-là. Et après, la difficulté, c'est de trouver aussi quelqu'un qui puisse, un artiste puisse aussi ressentir ce travail-là. Et là, on a eu beaucoup de chance. Hein. Avec Julien, c'est vraiment, il a parfaitement bien compris ce message-là. Et du coup, il l'a traduit à sa façon. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on présente ce travail aux salariés, qui sont extrêmement fiers de ça, hein, chacun y retrouve quelque chose qui lui parle dans son travail. Et on l'offre aux gens qu'on aime bien, hein, aux parties prenantes. C'est la première fois qu'on montre comment on fait les objets et pas le résultat final. Et je pense que c'est plus important, c'est pour ça que d'ailleurs j'étais un peu tensé sur ce qu'on y fait, c'est plutôt comment on le fait. C'est ça qui m'intéresse, moi. Et du coup, moi je suis... bien sûr, je suis content que la société économiquement se porte bien, mais je suis au-delà... encore plus, quasiment plus heureux d'avoir réussi ce travail-là et ces rencontres qu'on a pu faire. Voilà, et j'ai qu'une envie, c'est... On a été un peu modestes, on a été retenus comme... avec bien des déboires, d'ailleurs, c'est assez symbolique, tu pourras en parler, Florent, dans le cadre de l'innovation sociale au dernier salon de l'ESS. Et moi, je suis assez content. Derrière, peut-être qu'on puisse continuer ce travail-là. À chaque fois que je l'ai montré à des chefs d'entreprise, ils ont été assez scotchés et bluffés par rapport à ça et qu'ils aimeraient faire ça. Donc voilà, je pense qu'il y a il y a un certain nombre d'entreprises qui sont prêtes à faire ça. Voilà. Et peut-être que Florent, tu peux parler un petit peu justement de... Non, t'as pas envie.
Je parle de ce que tu veux, Jean-Marc.
de la partie démarrage dans le cadre de l'innovation sociale et la résidence d'artistes et qu'on a eu beaucoup de difficultés à rentrer dans les cases.
Oui, voilà, parce que on n'a pas parlé de la taille de l'entreprise de Jean-Marc, mais c'est une douzaine de salariés, enfin selon les commandes aussi, avec renfort d'intérimaire ou pas. Mais en fait, elle n'était pas adaptée au format classique de recevoir un artiste en résidence pendant des mois ou parfois même une année, comme on nous l'a proposé, dans les locaux de l'entreprise. Ça impacte beaucoup trop la vie de l'entreprise et la production pour qu'on puisse... procéder de cette façon-là. Donc ça, c'est un premier truc. On ne peut pas faire d'action culturelle chez CDA en faisant des résidences en temps long comme ça. Ce n'est pas possible. Il fallait trouver autre chose. Et puis, ma façon de... Au tout début, je me suis dit, puisqu'on fait de la culture en entreprise, il y a un volet culture en entreprise porté par la région Poitou-Charentes. À l'époque, ce n'était pas encore la Nouvelle-Aquitaine. Donc essayons de faire un dossier et une demande d'aide pour que tout ne soit pas toute l'action ne soit pas à la charge de l'entreprise, pour que ce soit un peu plus léger financièrement à porter. Et une des raisons du refus qui m'a été avancée, la principale raison, c'était que le catalogue qui devait être produit à la fin pouvait avoir une application économique, pouvait avoir une utilité pour l'entreprise. Donc on avait le droit de faire de la culture dans l'entreprise à la seule et unique condition, quelque part, que ça ne serve à rien, surtout pour l'entreprise. Alors c'était pas vraiment notre perception de l'expérience. Et puis moi enfin, qui était sollicité, c'était la première fois que j'étais sollicité dans ce cadre-là, d'ailleurs c'est toujours la première fois, mais je me suis dit, voilà quand même un challenge. Il faut que je puisse, en tant que... moi, je suis historien d'art de formation. J'ai une occasion de prouver que l'histoire de l'art, les sciences humaines, d'une manière un peu plus générale, hein, puisque vous êtes différents profils, et puis on a parlé de grec, et on a parlé de latin, et de plein de choses, mais que les sciences humaines peuvent servir à quelque chose dans l'économie réelle. Et là, crac, on me dit exactement l'inverse. Oui, mais non. Donc effectivement, on va poursuivre notre programme, et on a fait une autre demande au titre de l'innovation sociale puisque bon, ce serait la deuxième porte d'entrée administrative pour se faire bien voir de la région Nouvelle-Aquitaine. Mais bon, c'est, voilà, il y a eu un petit rebondissement, effectivement. Petite déconvenue là-dessus.
Merci. Voilà un fil conducteur pour l'an prochain. Quelles sont les entreprises qui ont utilisé de cette façon-là, à la fois esthétique, intelligente, enfin, avec cette dimension sociale qu'on sent bien. Parce que quand vous avez dit que vous avez interviewé chaque personne, chaque salarié, bon, ça vaut le coup, là.
Et dimension sociale dans les deux sens, hein, puisque je pense que dans la position de Jean-Marc, il avait envie de me faire faire quelque chose par moi-même sur le mode entrepreneurial, de la même façon que Julien se lançait dans une nouvelle initiative. On est des acteurs du territoire, on est à des moments un petit peu pas faciles de transition de nos vies professionnelles l'un et l'autre, et Jean-Marc a cette souplesse-là, cette intelligence-là de faire vivre son territoire autour de son entreprise.
Tout à fait, juste un petit exemple que vous connaissez peut-être, celui de la CAMIF. C'est la CAMIF, hein, qui a été reprise à Niort par quelqu'un que j'ai rencontré et qui m'a expliqué que le fait d'avoir fait intervenir une artiste, effectivement c'était en résidence, parce que c'est une entreprise un peu plus importante, alors que la CAMIF avait des traumatismes très profonds pour redémarrer, a établi le lien beaucoup plus rapidement que si elle n'était pas intervenue, probablement. Simplement par des bandes colorées. Enfin, tu connais le truc.
Oui, je connais. Je rebondis sur ce que tu disais, Florent, en premier lieu. C'est que c'était une entreprise qui avait besoin d'un tran. Et d'un tran, et ils avaient changé, je ne sais pas combien de fois, de patron. Ça ne fonctionnait toujours pas, quoi. Donc, on en parlait tout à l'heure avec Jackie. Voilà, il faut remettre du culturel parce que c'est quelque chose. Donc les gens ne se parlaient pas et l'artiste, elle a matérialisé en fait d'ordinateur à ordinateur parce que les gens, à chaque fois qu'ils voulaient se parler ou s'envoyer des emails, bah, ils n'envoyaient pas des emails, ils marchaient sur la bande qui correspondait pour aller discuter avec la personne qui était à 5 mètres ou à 10 mètres de là. Voilà, donc comme quoi l'art et et les sciences humaines sont là aussi pour pallier voilà pour pallier parce qu'ils font partie et à un moment donné quand on les oublie et eh ben ça fonctionne plus quoi.
Jackie.
Oui, justement pour approfondir un peu l'appel que je lançais tout à l'heure pour 2017 et je viens d'envoyer un SMS à la philosophe en lui disant que je retenais déjà sa date pour l'an prochain et que j'espérais que la SNCF ne la bloquerait pas à Lyon. Mais outre la plaisanterie, là, vraiment, je pense qu'il y a en France un problème de schizophrénie française. Alors, c'est peut-être vrai dans d'autres pays, mais je vais citer deux anecdotes que Jean-Marc m'entend souvent dire, mais je pense que c'est bon de les répéter. Grâce à lui, j'avais rencontré le président du centre socioculturel du Neuf à Strasbourg, le Neuf, fameux quartier connu, réputé pour le nombre de voitures brûlées en général en fin d'année, le 31 décembre. Et ce président est un JD, comme on dit, donc dans le langage du CJD, c'est-à-dire un jeune dirigeant. Et à la question, mais est-ce que ça a été facile pour vous, c'est tout. Et il y a évidemment changé assez considérablement l'orientation du centre socioculturel, c'est-à-dire beaucoup plus sur l'entrepreneuriat, etc., tout en respectant ce qu'est un centre socioculturel. Mais à la question, est-ce que ça a été facile pour vous d'être nommé président, élu, bien sûr, est-ce que la CAF, qui est quand même le super acteur financier au-dessus, n'a pas fait de difficultés. Et la réponse, c'est heureusement que j'étais administrateur MEDEF à la CAF, sinon je n'aurais pas été accepté comme président du centre socioculturel. Ce n'est pas vieux, ce n'est pas il y a 30 ans, 40 ans, c'est il y a 2 ans, en France, à Strasbourg. Premier exemple. Alors ça, c'est un peu, je dirais, le côté à gauche, la résistance un peu à mélanger l'entreprise et la culture. Mais à droite, c'est pas beaucoup mieux. C'est pour ça que je suis allé, Yvette était aussi intervenante à Mulhouse, donc c'est une ville dont le maire est Jean Rottner, les Républicains, et qui avait fait une journée assez intéressante, même très intéressante, dans un lieu d'une ancienne entreprise textile récupérée, Motoko, où il y avait beaucoup de jeunes designers, très économie sociale et solidaire, et là-dessus, je n'ai rien contre. Mais à la question, est-ce qu'il y a des représentants du CJD, d'entreprendre pour apprendre, Ben, le maire ne voyait pas, parce que pour lui, ça, c'était de l'ordre de l'économie sociale et solidaire. On s'amuse un peu avec ça, mais le monde de l'entreprise, on ne le mélange pas avec ça. Vous voyez ? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une véritable schizophrénie française. Et tant qu'on ne sortira pas de ça, c'est pour ça que le pari, c'est la culture. Je suis pas sûr que ça soit le bon, mais en a-t-on d'autres ? Eh bien, voilà, on n'évoluera pas beaucoup dans ce schéma.
Eh bien, ce sera peut-être le mot de la fin. Merci. On applaudit l'organisateur, donc Jackie Deniol, l'entrepreneur qui représente beaucoup d'autres entrepreneurs éclairés, je dirais, éclairés. Hein, et puis les artistes qui sont là à leur place dans l'entreprise aussi. Merci. Jackie, tu dis la suite des opérations.
Bah, oui, parce que la gastronomie, comme on le disait avec Jean-Marc, c'est quand même un élément important aussi de la créativité des territoires. Donc ce soir, on a voulu faire un petit clin d'œil, parce qu'il y a beaucoup de tendances dans la gastronomie, dans l'alimentation. Ce soir, c'est un clin d'œil au détox. Voilà.